Chapitre 5. Douleur partagée. Ouragan de joyaux, écailles scintillantes, voilure adamantine à l'éclat terrifiant, l'œil embrasé de feu et les ailes battantes, les dragons vinrent. Lumière insoutenable à la mémoire humaine, promesse enfin tenue d'un millier de chansons, cerf qui déchiquette et gueule meurtrière, le roi revint. La quête de vérité, d'Astérie chant d'oiseau. Un courant d'air effleura ma joue, et j'ouvris les yeux avec difficulté. Je m'étais endormi malgré le froid de l'aube qui entrait par la fenêtre ouverte. Une immense étendue d'eau se déployait devant moi, froncée par des vagues aux crêtes blanches sous un ciel de plomb. Je m'extirpai du fauteuil de vérité avec un gémissement et gagnai l'ouverture en deux enjambées. La vue, plus large, me montra les falaises à pic et les forêts qui s'accrochaient à leurs pieds, au flanc de Castelserre. L'odeur d'une tempête prochaine flottait dans l'air, et le vent affûtait ses crocs pour l'hiver. Le soleil avait dépassé l'horizon d'un bon empan. L'aube s'était enfuie depuis longtemps, et le prince n'était pas venu. Je ne m'en étonnais pas. Devoir dormait sans doute encore à point fermé après les festivités de la veille. Non, il n'était pas surprenant qu'il eût oublié notre rendez-vous ou qu'il se fût réveillé assez pour juger que ce n'était pas important et sombrer à nouveau dans le sommeil. Pourtant, j'éprouvais une certaine déception qui ne tenait pas seulement à ce que mon prince préférât son lit à ma compagnie. Il avait promis de se présenter et il n'en avait rien fait. Pis, il ne m'avait même pas fait prévenir qu'il annulait notre rencontre, ce qui m'eût épargné du temps et de l'énergie. Certes, pour un garçon de son âge, c'était une faute sans gravité, une simple négligence, mais l'inconséquence n'était pas admissible chez un prince, et j'avais fort envie de l'en réprimander comme Imbre n'y aurait pas manqué avec moi à son âge, ou comme Burick. J'eus un sourire triste. Adolescent, étais-je si différent de devoir ? Burick ne m'avait pas fait confiance pour me présenter ponctuellement à mes rendez-vous matinaux, et je me rappelais nettement les coups dont il martelait ma porte pour s'assurer que je serais présent à mes séances d'entraînement à la hache. Ma foi, si nos rôles avaient été autres, je serais volontiers allé tambouriner à la porte du prince. En l'occurrence, je me contentais de lui laisser un message inscrit dans la poussière accumulée sur la petite table près du fauteuil. J'étais là, pas vous. C'était concis. Et le prince pouvait y lire ou non une rebuffade, comme il lui plairait. C'était anonyme aussi. On pouvait y voir un mot laissé par un page dépité à une femme de chambre en retard. Je tirai les volets et sortis par où j'étais entré, c'est-à-dire un panneau latéral du parement décoratif qui encadrait la cheminée. Je dus me contorsionner pour franchir l'étroite ouverture, puis la refermer convenablement. Ma bougie s'était consumée et c'est dans l'obscurité presque totale que je descendis un long escalier, chichement éclairé par de minuscules ajours dans la muraille extérieure, qui laissait filtrer de minces doigts de lumière et de vent. J'empruntai ensuite une section horizontale dans de profondes ténèbres. Elle me parut plus longue que dans mon souvenir, et je fus soulagé quand je trouvai enfin, d'un pied tâtonnant, la première marche de l'escalier suivant. Hélas, arrivé en bas, je me trompais d'embranchement et la troisième fois qu'une toile d'araignée se colla sur mon visage, je compris que je m'étais égaré. Je fis demi-tour, les mains tendues devant moi, et quand, quelque temps après, j'émergeais dans la salle d'Imbre, derrière le casier à bouteilles, j'étais couvert de poussière, trempé de sueur et de très mauvaise humeur, bref, très mal préparé à ce qui m'attendait. Imbre quitta brusquement son fauteuil près de l'âtre et déposa la tasse qu'il tenait.
« Te voici, Fitz-Chevalerie. »
s'exclama-t-il. Au même instant, une onde d'art me heurta de plein fouet.
« Ne me vois pas, pue le chien !»
Je chancelai, puis me rattrapai au bord de la table pour ne pas tomber. Sans prêter attention à Imbre qui me regardait, les sourcils froncés, je me concentrai sur l'ours. L'idiot, le visage maculé de suie, se tenait près de l'âtre de travail. Sa silhouette ondoyait devant mes yeux et je me sentais étourdi. Si je n'avais pas renforcé mes murailles d'art la nuit précédente pour me garder du contact d'Orty, je crois qu'il serait parvenu à effacer toute image de lui de mon esprit. Je serrai les dents.
« Je te vois, je te verrai toujours.
Mais ça ne veut pas dire que je te ferai du mal, sauf si tu tentes de m'en faire ou que tu continues à m'insulter. » L'envie me tenaillait d'user du vif contre lui, de le repousser d'une décharge de pure énergie animale, mais je me retins. Je ne voulais pas non plus employer l'art. J'aurais dû baisser mes murailles et cela lui aurait révélé les limites de mes capacités. Je ne m'y sentais pas encore prêt. « Reste calme, » me dis-je. « Il faut te dominer avant de pouvoir le dominer. »
« Non, non, Lou, arrête. Il est gentil, il a le droit de venir. C'est moi qui lui ai permis. »
Humbre le gourmandait comme un enfant de 3 ans. Or, bien que les petits yeux qui me regardaient d'un air furieux au milieu du visage lunaire ne fussent certainement pas ceux de mon égal intellectuel, j'y lus pourtant de la rancœur à s'entendre apostropher de cette façon. Je sautai sur l'occasion. Sans me détourner de Lou, je m'adressai à Humbre. « Il n'est pas nécessaire de lui parler ainsi. Il n'est pas stupide. Il est... » Je cherchais un mot pour exprimer ce que je savais soudain avec certitude. L'intellect de Lourd avait beau être limité par certains aspects, il existait bel et bien. « Il est différent, » déclarai-je enfin, faute de mieux. « Différent comme un cheval est différent d'un chat, et que tous deux sont différents d'un homme, mais pas inférieurs. » J'avais l'impression de percevoir la manière qu'avait son esprit d'emprunter d'autres directions que le mien, d'attacher de l'importance à des détails que je négligeais tout en se désintéressant de pans entiers de ce que j'appelais la réalité et auquel j'ancrais mon existence même. L'œil noir, Lourd nous regarda tour à tour. Humbre et moi. Puis il s'empara de son balai, d'un seau plein de cendres, et sortit. À l'instant où le casier à bouteille se refermait derrière lui, je captai un dernier fragment de pensée.
« Pue le chien !»
Il ne m'aime pas. « Et il sait que j'ai le vif, » dis-je à Humbre, en me laissant tomber dans le deuxième fauteuil. D'un ton maussade, j'ajoutais « Le prince de Voir ne s'est pas présenté à la tour de vérité ce matin. Il m'avait affirmé qu'il viendrait pourtant. » Le vieil homme parut ne rien entendre.
« La reine désire te voir sur le champ. »
Vêtu d'une robe bleue, simple et de bon goût, voire élégante, il était chaussé de pantoufles de fourrure moelleuse. Avait-il mal aux pieds d'avoir trop dansé ? « À quel propos ?» demandai-je en me levant pour le suivre. Alors qu'il déclenchait l'ouverture du casier à bouteille, j'observais. Lourd n'avait pas l'air surpris de me voir entrer par ici. Humbre haussa les épaules.
« Je ne le crois pas assez intelligent pour s'en étonner. Il n'a sans doute même rien remarqué. »
Je réfléchis. Il avait peut-être raison. L'idiot n'y attachait peut-être aucune importance. « Et pourquoi la reine désire-t-elle me voir ?»
« Parce qu'elle me l'a dit !»
répondit-il d'un ton un peu acerbe, après quoi je le suivis en silence. Il devait avoir aussi mal à la tête que moi. Il connaissait un remède aux conséquences de l'excès d'alcool, je le savais, mais je savais également que la concoction n'en était pas simple. Il est parfois plus facile de supporter un mal de tête, si douloureux soit-il, que de se donner la peine de fabriquer un traitement. Nous pénétrâmes comme la première fois dans les appartements privés de la reine. Humbre jeta un coup d'œil par un trou dans le mur et tendit l'oreille pour s'assurer de l'absence de tout témoin. Puis, il nous fit entrer dans une pièce secrète et de là, dans le salon royal, où Ketriken nous attendait. Elle leva vers nous un sourire là. Elle était seule. Nous nous inclinâmes avec solennité.
« Bonjour, ma reine, » dit Humbre, et elle tendit les mains pour nous inviter à nous approcher.
Lors de ma dernière visite, c'était une Ketriken angoissée, uniquement préoccupé de la disparition de son fils, qui nous avait reçus dans une salle austère. Aujourd'hui, dans la même salle, on voyait partout sa touche personnelle et l'ouvrage de ses mains. Au centre d'une petite table, 6 lames d'or en forme de feuilles d'arbre étaient disposées sur un plateau couvert de galets luisants. Les 3 chandelles qui en pointaient diffusaient un parfum de violette. Plusieurs tapis de laine atténuaient le froid hivernal qui s'insinuait peu à peu dans le pavage, et des peaux de mouton moelleuses rendaient les fauteuils plus accueillants. Un feu de jour brûlait dans l'âtre, et une bouilloire suspendue au-dessus des flammes lâchait de petites bouffées de vapeur. Ce décor m'évoqua le séjour de Ketriken dans les montagnes. Elle avait aussi préparé un petit buffet, et de la tisane chaude fumait dans une théière rebondie. À l'instant où je remarquais la présence de 2 tasses seulement, Ketriken déclara « Merci de m'avoir amené Fitz-Chevalerie, sire Humbre. » C'était une façon courtoise de le congédier. Le vieil homme s'inclina de nouveau, peut-être avec un peu plus de raideur que la première fois, et ressortit par la pièce secrète. Je me retrouvai seul devant ma reine, en proie à la curiosité. Quand la porte se fut refermée sur Umbre, Ketriken poussa un grand soupir, puis s'assit à table et m'indiqua l'autre fauteuil. « Je vous en prie, Fitz. » Et par ces mots, elle me priait autant de prendre place que de laisser tout formalisme de côté. Comme je m'installais en face d'elle, j'étudiais ses traits. Nous avions à peu près le même âge, mais elle portait ses années beaucoup plus gracieusement que moi. Là où le passage du temps m'avait rudement balafré, il l'avait effleuré en ne laissant qu'un entrelac de rides au coin de ses yeux et de sa bouche. Sa robe verte rehaussait l'or de sa chevelure et allumait des éclats de jade dans son regard. Sa vêture était simple, tout comme le nattage de ses cheveux, et elle n'arborait ni bijoux ni maquillage. Et c'est sans cérémonie qu'elle me servit une tasse de tisane et la posa devant moi. « Il y a aussi des gâteaux, si cela vous fait envie, » dit-elle. « Et j'aurais volontiers accepté l'invitation, car je n'avais encore rien mangé ce matin-là. » Cependant, j'avais décelé dans sa voix une note rauque qui m'avait intrigué. Je replaçai sur la table la tasse que j'avais commencé à lever. Ketriken détourna les yeux, évitant mon regard. Je vis ses cils battre frénétiquement, et puis une larme déborda et roula sur sa joue. « Ketriken ? » fis-je inquiet. Que s'était-il passé ? Avait-elle découvert la répugnance de la Narcheska à épouser son fils ? De nouvelles menaces au sujet du vif avaient-elles été proférées ? Elle prit une inspiration hachée, puis se tourna brusquement vers moi.
« Oh, Fitz, ce n'est pas pour cela que je vous ai fait venir, je voulais le garder pour moi, mais j'ai trop de peine pour nous tous. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais déjà au courant. Je m'étais réveillé un matin à l'aube avec l'impression d'une cassure, d'une grande rupture. »
Elle tenta de s'éclaircir la gorge et n'y parvint pas. Elle poursuivit d'une voix gutturale, le visage inondé de larmes.
« J'ignorais de quoi il s'agissait, mais quand Umbre m'a rapporté les événements de votre mission, j'ai compris aussitôt. Je l'ai senti s'en aller, Fitz. J'ai senti Œil de Nuit nous quitter. »
Un violent sanglot la secoua. Elle enfouit son visage dans ses mains et pleura comme une enfant au désespoir. J'avais envie de m'enfuir. J'avais presque réussi à dominer ma douleur et voici qu'elle retournait le couteau dans la plaie. Je restais de marbre, pétrifié par la peine. Pourquoi fallait-il qu'elle y touche ? Elle ne parut pas s'apercevoir de ma soudaine froideur.
Les années passent, mais jamais on n'oublie un ami comme lui.
Elle se parlait à elle-même, ses propos étouffés par ses mains et ses larmes. Elle se balançait légèrement d'avant en arrière.
Je ne m'étais jamais senti aussi proche d'un animal avant notre voyage ensemble, mais lui était toujours là. Pendant nos longues heures de marche, il partait reconnaître la route, revenait et s'en allait en arrière vérifier qu'on ne nous suivait pas. Il était pour moi comme un bouclier, car lorsque je le voyais s'approcher au petit trot, je savais qu'il s'était porté en avant et que nul danger nous attendait. Sans la confiance que j'avais en lui, mon pauvre courage m'aurait sûrement fait défaut 100 fois. Quand nous avons entamé notre quête, je le considérais comme une simple extension de vous. Mais j'ai appris à le connaître. J'ai découvert sa vaillance, sa ténacité, même son humour. En certaines occasions, surtout à la carrière, nous partions chasser ensemble. Et j'avais le sentiment qu'il était le seul à comprendre ce que j'éprouvais. Certes, je pouvais le prendre dans mes bras, me laisser aller à pleurer dans sa fourrure sans crainte qu'il révèle ma faiblesse, mais ce n'est pas tout. Il se réjouissait aussi de ma force. À la chasse, quand je tuais une proie, je percevais son approbation comme une exultation farouche qui m'affirmait que j'avais le droit de survivre, que j'avais mérité ma place dans ce monde. »
Elle reprit difficilement son souffle.
« Il me manquera, toujours, je pense. Et dire que je n'ai pas eu l'occasion de le revoir une dernière fois avant. »
La tête me tournait. Je ne m'étais jamais douté qu'il fût aussi proche. Œil de Nuit savait bien garder ses secrets, lui aussi. Je me doutais que la reine Ketriken possédait une prédisposition au vif, car il m'était arrivé de sentir son esprit se tendre vaguement lors de ses méditations, et j'avais souvent songé que dans les six duchés, on aurait désigné d'un terme moins bienveillant ce qu'en montagnarde elle appelait son lien avec la nature. Mais mon loup et elle Il vous parlait? Vous entendiez les pensées d'œil de nuit? Elle secoua la tête, le visage toujours dans les mains, puis répondit d'une voix étouffée.
« Non, mais je le sentais dans mon cœur quand je n'étais plus sensible à rien d'autre. »
Je me levai lentement et fis le tour de la petite table. Je voulais seulement poser une main amicale sur son épaule, mais à mon contact, elle se dressa soudain, puis s'effondra dans mes bras. Je la soutins pendant qu'elle sanglotait contre moi, et malgré que j'en eusse, les larmes montèrent à mes yeux. Alors sa peine, non sa pitié pour moi, mais le chagrin que lui inspirait la mort d'œil de nuit, permit à la mienne de s'exprimer, et ma douleur se libéra dans un grand déchirement d'âme. Toute la détresse que j'avais tenté de sceller à ceux qui ne pouvaient comprendre la profondeur de ma souffrance, cette détresse exigea d'avoir libre cours. Je ne pris conscience, je crois, de l'interversion de nos rôles qu'au moment où Ketriken me fit doucement asseoir dans son fauteuil. Elle me tendit son mouchoir minuscule et inutile, puis baisa délicatement mon front et mes joues. Mes larmes coulaient sans que je puisse les endiguer. Elle resta debout près de moi, tenant ma tête contre son sein, me caressa les cheveux et me laissa pleurer, tout en parlant d'une voix brisée de mon loup et de ce qu'il avait représenté pour elle. Je l'entendais à peine. Elle ne chercha pas à faire cesser mes pleurs, ni à m'affirmer que tout allait bien. Elle savait que c'était faux. Mais quand mes larmes s'épuisèrent enfin, elle se pencha pour déposer un baiser sur mes lèvres, un baiser d'apaisement, de guérison. Ses larmes avaient donné un goût salé à ses propres lèvres. Elle se redressa. Elle poussa tout à coup un grand soupir, comme si elle déposait un lourd fardeau. « Vos pauvres cheveux, » murmura-t-elle en les aplatissant de la main. « Ah, mon cher Fitz, comme nous vous avons maltraité, lui et vous. Jamais je ne pourrais. » Elle parut se rendre compte de l'inutilité de ses paroles et s'interrompit. « Mais, enfin, buvez votre tisane tant qu'elle est chaude. » Elle s'écarta et, au bout d'un moment, je sentis que j'avais recouvré la maîtrise de moi-même. Comme elle s'installait dans mon fauteuil, je pris sa tasse et la portai à ma bouche. La tisane était encore brûlante. Peu de temps s'était donc écoulé, et pourtant, j'avais le sentiment d'avoir franchi un jalon important de mon existence. J'inspirais profondément, et il me sembla remplir plus complètement mes poumons que je ne l'avais fait depuis bien des jours. Ketriken but à ma tasse, et quand je la regardais, elle me fit un petit sourire. Ses pleurs avaient souligné de rouge ses yeux clairs et rosi le bout de son nez. Jamais elle ne m'avait paru plus jolie. Nous passâmes ainsi quelques minutes en silence. Elle avait préparé de la tisane aux épices, chaleureuse et revigorante. Nous avions à notre disposition des friands à la saucisse, de petites tourtes aux fruits acides et des gâteaux d'avoine simples et fermes. Nous n'osions parler ni l'un ni l'autre de peur que notre voix nous trahisse, et nous n'en avions nul besoin. Quand les herbes eurent infusé, je remplis nos tasses à nouveau. Ketriken resta encore un moment sans rien dire. Puis, elle se laissa aller contre son dossier et déclara calmement. Ainsi, vous le voyez, cette soi-disant tare que porte mon fils vient de moi. Elle s'exprimait comme si elle poursuivait une conversation ininterrompue. Je m'étais demandé si elle opérerait le rapprochement. À présent qu'elle avait fait le lien, mon cœur se serrait en percevant dans sa voix son chagrin et son remords. Il y a eu des loin voyants doués du vif avant de voir, répondis-je, moi, entre autres.
Et vous aviez une mère montagnarde? N'est-ce pas à une lune qu'on vous a remis à vérité? Qui d'autre qu'une montagnarde aurait pu vous mettre au monde là-bas? Je la vois dans la finesse de vos cheveux, et je l'ai entendue dans la promptitude avec laquelle vous vous êtes rappelé la langue de votre enfance, la première fois que vous vous êtes rendu à Jaamp. Si les montagnes vous ont ainsi marqué, pourquoi n'aurait-elle pas laissé d'autres empreintes? Il est possible que votre mère soit à l'origine de votre vif. Peut-être le sang montagnard charrie-t-il cette magie? Je m'approchai dangereusement de la vérité quand je répondis « À mon point de vue, Devoir a pu hériter son vif aussi bien de son père que de sa mère. Mais peu importe d'où il le tient.
dis-je, coupant grossièrement la parole à ma reine. Je voulais détourner la conversation du chemin qu'elle avait emprunté. Il l'a, et c'est tout ce dont il faut se préoccuper. Quand il m'a demandé de lui enseigner ce que je sais, j'ai d'abord été horrifié, mais je crois, aujourd'hui, que son instinct ne l'a pas trompé. Mieux vaut qu'il en apprenne le plus possible sur les magies dont il est doué. Le visage de Ketriken s'illumina. Vous avez donc accepté de le former ? Décidément, mon talent pour la dissimulation s'était bien rouillé. À moins que, comme je m'en fie aigrement la réflexion, Madame n'eût découvert au fil des ans que la subtilité et la douceur pouvaient lui dévoiler des secrets que même l'habileté retorse d'Imbre n'avait pas réussi à m'arracher. Le regard pénétrant qu'elle posait sur moi m'inclinait à pencher pour la seconde hypothèse. Je n'en parlerai pas avec le prince. S'il souhaite que cela reste exclusivement entre vous, il en sera ainsi. Quand commencerez-vous ?
Dès que cela conviendra au prince, répondis-je évasivement. Je ne voulais pas rapporter à sa mère qu'il avait déjà manqué sa première leçon. Elle hocha la tête, apparemment satisfaite de s'en remettre à moi. Elle s'éclaircit la gorge.
« Fitz Chevalerie, je vous ai fait mander pour vous rendre justice. Autant qu'il est possible, en tout cas. Dans bien des domaines, je ne puis vous traiter comme vous le mériteriez, mais je désire que tout soit fait pour votre bien-être ou votre plaisir. » Vous jouez le rôle du serviteur de cire dorée, et j'en comprends les raisons. Néanmoins, il me chagrine qu'on ne reconnaisse pas la valeur d'un prince de votre lignage parmi son propre peuple. Aussi, quels sont vos souhaits ? Aimeriez-vous d'autres appartements auxquels vous pourriez accéder secrètement, et où vous pourriez jouir d'un véritable confort ?
Non, répondis-je vivement. Puis, conscient de ma brusquerie, je continuai. La situation est parfaite, telle qu'elle est. Je n'ai pas besoin de mieux. Je pouvais vivre à Castelserre, mais jamais je n'y serais chez moi. Il était vain de l'espérer. Cette idée m'ébranla soudain. Être chez soi, c'était se trouver dans un lieu qu'on partageait, comme la soupente des écuries avec Burick, ou la chaumine avec Œil de Nuit et Heure. Et les appartements où je vivais aujourd'hui en compagnie du fou, non. Il y avait, en nous deux, trop de circonspection. Trop d'intimité préservée, trop de contraintes imposées par nos rôles respectifs.
Pris les dispositions pour une allocation mensuelle. Imbre s'occupera de vous la faire verser, mais je tenais à vous donner ceci aujourd'hui même.
Et ma reine posa une bourse devant moi, petit sac de tissu brodé de fleurs stylisées qui tinta lourdement sur la table. Je rougis malgré moi et ne pus le dissimuler. Je levai les yeux et constatai que les joues de Ketriken avaient rosi, elle aussi.
L'effet est gênant, n'est-ce pas ? Mais ne vous y trompez pas, Fitz Chevalerie. Cet argent ne sert pas à vous payer de ce que vous avez fait pour moi et les miens. Aucune somme ne le pourrait. Cependant, nous avons tous nos dépenses, et il ne sied pas que vous deviez mendier ce dont vous avez besoin.
Je comprenais son point de vue, mais ne pus me retenir.
Votre famille est la mienne, ma reine, et vous avez raison. Aucune somme ne peut rétribuer ce que je fais pour elle.
Une autre aurait peut-être pris cette réponse pour un reproche, mais je vis une fierté farouche illuminer le regard de Ketriken qui me sourit.
Je me réjouis de cette parenté, Fitz Chevalerie. Rurisk était mon seul frère et nul ne saurait le remplacer. Pourtant, vous en approchez autant qu'il est possible.
À ces mots, je songeais que nous nous comprenions parfaitement. Et j'eus chaud au cœur de constater qu'elle nous liait par nos attaches familiales, par le sang que je partageais avec son époux et son fils. Bien des années plus tôt, le roi subtil s'était approprié ma personne par le biais d'un marché scellé par une épingle d'argent. Souverain et bijoux avaient disparu depuis longtemps. Le marché tenait-il toujours ? Subtil, pour s'assurer ma fidélité, avait préféré user de son droit de roi plutôt que de sa position de grand-père. Aujourd'hui, Ketriken, ma reine, me reconnaissait d'abord comme parent et ensuite comme frère. Elle ne marchandait pas, et elle aurait froncé le sourcil à l'idée qu'il fût nécessaire de mettre des conditions à ma loyauté.
Je souhaite révéler à mon fils votre véritable identité.
Avec un sursaut, je sortis de mes réflexions béates. Je vous en prie, non, ma reine. Cette information représente un risque et un lourd fardeau. Pourquoi l'en charger ?
Pourquoi refuser le droit de savoir à l'héritier des longs invoyants ?
Un long silence tomba.
Plus tard, peut-être, dis-je enfin. Elle acquiesça de la tête et j'en fus soulagé. Mais cela ne dura pas.
Quand le moment sera venu, je le saurai, répondit-elle. Puis elle me prit la main et déposa un objet dans ma paume.
Il y a longtemps, vous portiez une petite épingle en argent sertie d'un rubis que le roi subtil vous avait donné. Elle vous désignait comme son nom Lige et disait que sa porte vous restait ouverte. J'aimerais que vous arboriez aujourd'hui ceci dans le même esprit.
Le petit bijou représentait un renard d'argent à l'œil vert et scintillant, assis, l'air alerte, la queue enroulée sur ses pattes. Il était fixé à une longue broche. Je l'examinais de près, l'ouvrage était parfait.
Vous l'avez créé vous-même.
Je suis flatté. Vous n'avez pas oublié que j'aime travailler l'argent.
Oui,
en effet. Et le renard est ce dont vous avez fait mon symbole ici, à Castelserre.
Je délaçai ma chemise, l'ouvris, et, sous le regard attentif de la reine, enfonçai l'épingle dans le revers. Ainsi placée, elle était invisible, mais quand je refermai mon col, je sentis le petit renard contre ma poitrine. Je m'éclaircis la gorge.
Vous m'honorez.
Et puisque vous dites me considérer comme aussi proche que votre frère, je vais vous poser une question que Rurisk vous aurait sûrement posée lui aussi. Pardonnez mon audace, mais je tiens à savoir pourquoi il se trouve parmi vos dames de compagnie une femme qui a voulu attenter à votre vie, ainsi qu'à celle de votre enfant à naître. Elle me dévisagea un instant, avec une expression de perplexité non feinte. Puis elle sursauta comme si on venait de la piquer, et dit
« Ah, vous parlez de dame Romarin ?»«
Oui. Il y a si longtemps. Tout cela s'est passé il y a bien des années, Fitz. Vous savez, quand je la regarde, je n'y pense même plus. Lorsqu'Or Royal et son train sont revenus après la guerre des pirates rouges, Romarin faisait partie de sa suite. Sa mère était morte et on l'avait négligée. Tout d'abord, je ne pouvais pas supporter leur présence à Royal, ni à elle, mais il fallait préserver les apparences et les excuses abjectes et les promesses de fidélité de votre oncle envers l'héritier à venir et moi-même ont été utiles. Elles ont servi à réunir les six duchés, car il avait derrière lui la noblesse de Labour et de Bauges, dont le soutien nous était absolument nécessaire. À la suite du conflit, une guerre civile aurait pu aisément éclater dans le royaume, tant étaient profonds les différends qui divisaient les duchés, mais grâce à l'influence de Royal, les nobles ont accepté de me prêter serment d'allégeance. Et puis, il est mort, de façon étrange et violente, et il était inévitable qu'on m'accusât tout bas de l'avoir fait assassiner par vengeance. Imbre m'a fermement conseillé alors de faire quelques gestes pour l'aristocratie afin de m'assurer sa fidélité, et je me suis exécuté. J'ai confié à Dame Patience la province de Guédenégos, car je jugeais avoir besoin d'un appui solide dans cette ville, mais j'ai judicieusement distribué les autres fiefs de Royal entre ceux qu'il fallait apaiser au plus vite.
Et la réaction de Sir Brillant à tout cela, demandai-je.
J'ignorais tout des événements qu'elle décrivait. Brillant était l'héritier de Royal et occupait aujourd'hui le rang de duc de Bauges. Une grande partie de ce qui avait été distribué représentait sans doute ce qui aurait dû lui revenir. Je l'ai récompensé sous d'autres formes. Après la façon désastreuse dont il avait défendu Serre et Castelserre, il se trouvait dans une position précaire, et il ne pouvait guère protester trop fort, car il n'avait pas hérité de l'influence de Royal sur l'aristocratie. Toutefois, je me suis efforcé de faire en sorte que non seulement il soit satisfait de son sort, mais qu'il devienne meilleur dirigeant qu'il ne l'aurait été autrement. J'ai veillé à ce qu'il reçoive une éducation qui ne concerne pas que la qualité des vins et des parures. Et la plupart de ses années en tant que duc de Bauges se sont déroulées ici même, à Castelserre. Patience gère à sa place ses tenures de Guédenégos, sans doute beaucoup mieux qu'il ne s'y prendrait lui-même, car elle a le talent et le bon sens de confier les postes importants à des gens compétents. Elle transmet chaque mois à Brillant des comptes rendus, avec un luxe de détails dont elle se passerait volontiers, et j'exige qu'il les étudie sous l'égide d'un de mes trésoriers, d'abord pour m'assurer qu'il les comprend, ensuite pour qu'il se déclare publiquement satisfait de la gestion de ses biens. Et je crois qu'aujourd'hui, il l'est bel et bien.
« Sa duchesse n'en serait-elle pas un peu responsable ?» demandai-je.
Catricaine eut la grâce de rougir légèrement. Imbre considérait que le mariage concourait à son bonheur, En outre, il est temps qu'il se donne un héritier. Célibataire, il invitait à la discorde dans la cour. Qui a choisi l'heureux élu? Je tâchais de gommer toute froideur de ma voix. Sire Humbre m'a soumis une liste de plusieurs jeunes filles de bonne famille qui possédaient les qualités requises, et je me suis chargé de les présenter à Briand. J'ai aussi laissé entendre aux parents que je verrais d'un bon œil le duc jeter son dévolu sur une de leurs filles. La compétition a vite fait rage parmi les prétendantes, mais c'est le seigneur Briand lui-même qui a choisi sa future épouse parmi elles. Mon rôle s'est borné à lui offrir la possibilité d'élire. Je l'interrompis pour achever à sa place. Quelqu'un de docile, sans trop d'ambition. La fille d'un noble fidèle à la couronne. Elle me regarda dans les yeux.
Oui.
Elle poussa un petit soupir. M'en faites-vous reproche, fit ce chevalerie? Vous qui, le premier, m'avez enseigné à tourner les intrigues de la cour à mon avantage? Je souris. Non. En vérité, je suis fier de vous. Et si j'en crois l'expression qu'affichait Sir Briand hier soir lors de la fête, il est pleinement satisfait de sa dame. Elle eut un nouveau soupir, comme de soulagement cette fois.
Merci.
Votre considération m'est chère, fit ce chevalerie, aujourd'hui comme jadis, et je ne voudrais pas croire un jour m'être avili à vos yeux.
Je doute que vous le puissiez, répondis-je avec autant de sincérité que de galanterie.
Je décidai de ramener la conversation sur le sujet qui m'intéressait.
Et Romarin?
Quand Royal est mort, la plupart de ses courtisans ont regagné leur propriété familiale, et certains sont allés visiter de nouvelles tenures que je leur avais offertes. Mais personne n'a emmené Romarin. Son père était mort avant sa naissance, et sa mère portait son titre, Dame Séléfa de Sapinière. Mais ce n'était guère plus que des mots. Sapinière est une tenure minuscule, un fief de mendiant. Il s'y dresse un manoir, mais, à ce que je sais, il n'est plus habité depuis des années. Si elle n'avait pas bénéficié de la faveur de Royal, Dame Séléfa n'aurait jamais mis les pieds à la cour.
Elle soupira.
Romarin se trouvait donc à Castelserre, orpheline à 8 ans, et elle n'était pas dans les bonnes grâces de la reine. Inutile, je crois, que je vous décrive quelle était sa vie à la cour. Je ne pus m'empêcher de faire la grimace. Je n'avais pas oublié comment on m'y avait traité moi-même. J'essayais de faire comme si elle n'existait pas, mais Humbre refusait d'oublier sa présence. Et en vérité, je n'y arrivais pas non plus.
Elle représentait une menace pour vous. Bien qu'incomplètement formée, c'était un assassin que Royal avait dressé à vous haïr. Il n'était pas possible de la laisser vagabonder partout sans surveillance.
Kétriken se tut un moment, puis répondit.
On croirait entendre Humbre.
Non, c'était pire que cela. Il y avait chez moi une enfant rejetée, une petite fille à qui j'en voulais d'être devenue ce qu'on l'avait faite. Je la négligeais, et son existence même était un reproche constant à ma dureté. Si j'avais été pour elle ce qu'une dame doit être pour son page, Royal n'aurait jamais réussi à la détourner de moi.
Sauf s'il la tenait sous sa coupe avant même que vous ne la preniez à votre service.
Même dans ce cas, j'aurais dû m'en apercevoir. Mais je ne m'intéressais qu'à ma vie et à mes soucis personnels.
Voyons, c'était votre page, non votre fille.
Vous oubliez que par mon éducation montagnarde, je suis l'oblat de mon peuple, Fitz, et non une reine telle que vous vous la représentez. J'exige davantage de moi-même.
J'esquivai la question.
C'est donc vous qui avez décidé de la garder. D'après Humbre, c'était cela, ou bien je devais l'éliminer.
Ces mots m'ont empli d'horreur. Tuer une enfant parce qu'elle a agi selon ce qu'on lui a enseigné?
Et puis, ces mêmes mots m'ont aidé à y voir plus clair. Il aurait été plus miséricordieux de la tuer que de la torturer en la négligeant comme je l'avais fait jusque-là. Je me suis donc rendu chez elle le soir même, seule. Elle était terrorisée devant moi. Sa chambre était glacée, presque nue, et j'ignore depuis combien de temps sa literie n'avait pas été nettoyée. Sa chemise de nuit était devenue trop petite pour elle. Elle était déchirée aux épaules et bien trop courte pour sa taille. Elle s'est pelotonnée sur son lit, aussi loin de moi que possible, et elle m'a regardé, les yeux agrandis de peur. Je lui ai demandé alors ce qu'elle préférait. Être confiée à Dame Patience
ou redevenir mon page.
Et elle a choisi cette dernière solution.
Elle a éclaté en larmes, Elle s'est jetée au sol, s'est cramponnée à mes jupes et m'a dit qu'elle croyait que je ne l'aimais plus. Elle sanglotait si fort que, le temps que je parvienne à la calmer, ses cheveux étaient trempés de sueur et elle tremblait comme une feuille. Fitz, quelle honte j'ai ressentie à m'être montrée si cruelle avec une enfant, non en la battant mais en feignant simplement de ne pas la voir. Seul Imbre et moi l'avions suspectée de chercher à me nuire. Cependant, rien qu'en la repoussant, j'avais donné l'autorisation tacite au rang moins élevé que le mien de la traiter avec brutalité. Ses petites pantoufles étaient en lambeaux.
Sa voix mourut. Et malgré moi, mon cœur se serra pour Romarin. Ketriken prit une grande inspiration et poursuivit son récit. Elle m'a supplié de la reprendre à mon service. Elle n'avait pas 7 ans quand elle avait obéi aux ordres de Royal, Fitz. Elle ne m'avait jamais détesté et elle n'avait jamais compris ce qu'on lui demandait. Pour elle, j'en suis sûr, écouter mes conversations et les répéter n'était qu'un jeu. Je me voulus terre à terre et insensible. Et enduire les marches de graisse pour provoquer votre chute?
Lui aurait-on expliqué l'objectif de sa mission? Ne lui aurait-on pas seulement ordonné d'étaler la graisse sur les marches après que je serais monté au jardin de la tour? Aux yeux d'une enfant, cela pouvait avoir l'air d'une simple plaisanterie.
Lui avez-vous posé la question? La reine se tut un instant. Il est des sujets qu'il vaut mieux ne pas mettre sur le tapis. Même si elle savait que le but était de me faire tomber, je ne crois pas qu'elle en mesurait toute l'importance. Peut-être voyait-elle 2 personnes en moi, la femme que Royal désirait abattre et Ketriken qu'elle servait quotidiennement. Le responsable de sa conduite est mort, et depuis que je l'ai reprise auprès de moi, elle s'est toujours montrée fidèle et diligente.
Elle poussa un soupir et son regard se porta sur le mur dans mon dos.
Il faut laisser le passé au passé, Fitz, et cela s'applique particulièrement à ceux qui ont la charge du pouvoir. Je dois marier mon fils à la fille d'un Outrilien. Je dois instaurer une alliance politique et commerciale avec un peuple qui a mené mon roi à la mort. Vais-je chicaner pour une petite espionne que j'ai prise sous mon aile et dont j'ai fait une dame de ma cour?
Je soupirai à mon tour. Si elle ne regrettait pas sa décision 15 ans après, aucun de mes arguments n'y changerait rien. Et c'était peut-être mieux ainsi.
Non. C'est sans doute normal de votre part. À votre arrivée à Castelserre, vous n'avez pas hésité à écouter les conseils d'un assassin.
Elle me corrigea d'un ton grave.
De mon premier ami en ces lieux.
Elle fronça les sourcils. Quand je l'avais connu autrefois, il n'y avait pas toutes ces rides sur son front et entre ses yeux, mais sa fonction les avait creusées.
Ce mystère qu'il faut préserver autour de vous ne me plaît pas. Je voudrais vous avoir à mes côtés pour me guider et dispenser votre enseignement à mon fils. Je voudrais vous honorer comme ami autant que comme loin voyant.
C'est impossible, répondis-je avec fermeté, et je m'en réjouis. Je vous suis plus utile dans le rôle que je joue, et je représente un danger moindre pour le prince et vous-même.
Mais vous courez davantage de risques. J'ai appris par Imbre que des pies vous avaient menacé sur le pas de notre porte.
J'en pris alors conscience, j'aurais préféré qu'elle n'en sût rien. Mieux vaut que je me charge personnellement de cette affaire. J'arriverai peut-être à les attirer au grand jour.
Peut-être. Néanmoins, j'ai honte de songer que vous affrontez ce péril apparemment seul. À vous dire la vérité, savoir qu'un tel sectarisme existe encore dans les 6 duchés et que notre noblesse ne s'y oppose pas m'emplit de dégoût. Je m'efforce de protéger au mieux mes sujets vifiés, mais les progrès sont lents. Quand les premiers placards d'épis sont apparus, la fureur m'a prise et Imbre m'a pressé de ne pas agir sous le coup de la passion. Aujourd'hui, je me demande s'il n'aurait pas été plus avisé de déclarer publiquement ma colère. Ma seconde réaction a été d'informer ceux de mon peuple qui sont doués du vif que ma justice leur était accessible. J'ai voulu inviter les chefs des vifiers à venir me voir, afin qu'ensemble, nous puissions leur forger un bouclier contre la malveillance de ces pies.
Elle secoua la tête.
Là encore, Imbre s'est interposé. Les vifiers n'avaient pas de dirigeants ni d'organisation, et ils se méfieraient trop des loin voyants pour répondre à mon appel. Nous ne disposions d'aucun intermédiaire auquel ils accorderaient leur confiance, ni d'aucune preuve à leur soumettre pour les convaincre que nous ne leur tendions pas un piège. Il m'a persuadé d'abandonner cette idée.
Comme à contre-cœur, elle ajouta,
Imbre est un bon conseiller, avisé en politique et fin connaisseur des arcanes du pouvoir. Pourtant, j'ai parfois l'impression qu'il voudrait gouverner avec pour seul objectif la stabilité du royaume, sans se soucier autant que moi de la justice. Son front pâle se plissa. Selon lui, plus le pays est stable, plus la justice a de chances d'y régner. Il a peut-être raison, mais j'ai bien souvent regretté les longues discussions que nous avions sur ces sujets, vous et moi. En cela aussi, vous m'avez manqué, Fitz-Chevalerie. Il me déplaît de ne pouvoir vous garder près de moi et d'être obligé de vous faire mander en secret quand je souhaite votre présence. J'aimerais pouvoir vous inviter à nous accompagner au jeu aujourd'hui, Péotr et moi, car votre opinion sur lui me serait précieuse. C'est un personnage très intrigant.
Vous jouez avec Péotr aujourd'hui ?
J'ai bavardé avec lui hier soir, et comme nous évoquions les chances de Devoir et d'Eliania d'être vraiment heureux ensemble, nous avons abordé le sujet de la chance en général, puis nous avons dévié sur les jeux de hasard. Vous rappelez-vous une distraction des montagnes où interviennent des cartes et des cailloux marqués de runes ?
Je fouillais mes souvenirs.
Oui, vous m'en avez parlé une fois, je crois.
Et il me revient maintenant d'avoir lu un texte à ce sujet, après le premier attentat de Royal contre moi, pendant ma convalescence.
On utilise des cartes en épais papier ou de minces tablettes de bois. Elles portent, peintes ou gravées, des images tirées de nos contes, comme le vieux tisserand ou le chasseur à l'affût. Des runes sont inscrites sur les cailloux et désignent la pierre, l'eau et la pâture.
Oui, je connais ce jeu, j'en suis sûr.
Eh bien, Péotr souhaite que je lui en enseigne les règles. Il s'est montré fort intéressé quand je l'ai décrit. Selon lui, il en existe un dans les îles d'outre-mer qui se pratique avec des cubes runiques que l'on agite puis que l'on jette. Alors le joueur dispose ses pions sur un carré de tissu ou une plaque de bois où sont représentés des dieux mineurs comme le vent, la fumée ou l'arbre. Cela rappelle fort mon jeu, n'est-ce pas ?
Peut-être,
dis-je plus intéressé par le visage de Ketriken. À la perspective de se faire le professeur de Péotr, elle s'était illuminée d'une façon qui n'avait aucune commune mesure avec le plaisir que cette idée aurait dû lui procurer.
Ma reine trouvait-elle à son goût ce guerrier outrilien rugueux ? Il faudra m'en apprendre davantage sur ce jeu plus tard. J'aimerais savoir si les runes inscrites sur les dés sont similaires à celles de vos cailloux.
Ce serait curieux, en effet, d'autant que certaines runes de mon jeu ressemblent à celles des piliers d'art.
Ah ?
Ma reine restait capable de me prendre au dépourvu. J'avais toujours eu l'impression qu'elle possédait une rare aptitude à suivre plusieurs trains de pensée à la fois et à rassembler des éléments étrangement disparates en un tout organisé auquel nul n'avait songé. C'est de cette manière qu'elle avait redécouvert la carte perdue de la route qui menait au royaume des anciens. Je me sentis soudain comme surchargé de sujets de réflexion.
Je me levais pour prendre congé, m'inclinais et cherchais en vain les mots pour la remercier, tout en m'étonnant de cette impulsion qui m'incitait à témoigner de la reconnaissance à quelqu'un qui pleurait un être que j'avais aimé. Je bafouillais maladroitement jusqu'à ce qu'elle me fît taire, en s'emparant de mes mains.
Vous êtes peut-être vous-même le seul qui ait compris ce que j'ai ressenti à la disparition de Vérité, à le voir transformé, à le savoir bientôt triomphant, sans pouvoir m'empêcher d'éprouver un chagrin égoïste à l'idée de ne plus jamais retrouver l'homme qu'il avait été. Ce n'est pas la première tragédie que nous partageons, Fitz-Chevalerie. Vous et moi avons traversé seuls une grande part de notre existence.
Faisant fi de la bienséance, je pris Ketriken dans mes bras et la serrai un long moment contre moi.
Il vous adorait, dis-je. Et je m'étranglais sur ces paroles que je prononçais au nom de mon roi perdu. Elle posa son front sur mon épaule.
« Je le sais, »
répondit-elle à mi-voix.
« Son amour me soutient toujours. J'ai parfois l'impression de le sentir près de moi, en train de me souffler des conseils pendant les heures difficiles de ma vie. Puisse œil de nuit demeurer avec vous comme Vérité reste avec moi. »
Je tins longuement l'épouse de Vérité sur mon cœur. Tout aurait pu être si différent. Mais son souhait était un bon souhait, et il m'apaisait l'âme. Avec un soupir, je la libérai de mon étreinte, et la reine et le domestique se séparèrent pour vaquer à leurs tâches quotidiennes.